1, 2, 3, 4.
Et mais les gars, c'est plus le beatbox aujourd'hui, c'est plus le hip-hop. On est sur un bal au centre spécial sport et immigration.
Et bonjour Liz.
Et bonjour Kelly.
Salut les filles.
Hey, bonjour Thibaut. Nous revoici en direct pour un nouveau
bal au centre.
Tout à fait.
En direct du Café des Sports.
Plutôt de Radio Bartas.
Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Quel 4 mètres. Oh, celui-là, il est magnifique.
Balle au centre, c'est
une émission
sur le sport,
sur les sports.
On écoutera
les résultats sportifs,
les clubs d'ici,
des invités,
des interviews,
des histoires
et des anecdotes.
Parce que le sport,
c'est pas que sur le terrain.
C'est aussi sur
Radio Bartas.
Son championne d'Europe.
Son championne d'Europe.
J'ai jamais vu ça.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous avez bien écouté le générique, vous remarquerez qu'elles ne sont pas que championnes d'Europe, elles sont même championnes du monde. Bravo aux Françaises, championnes du monde de handball. Hier soir, vous avez sûrement suivi ça. Aujourd'hui, journée spéciale Bartas sur l'immigration. J'imagine que vous avez écouté ça avec attention. Et donc, on vous présente aujourd'hui un bal au centre spécial sport et immigration. Alors, l'histoire, c'est que quand Eric, vous voyez Eric là, le grand, quand Eric, l'administrateur de Bartas, notre ami aujourd'hui sur le plateau,
pas que le voir,
Eric, vous voyez, vous l'entendez, et ben, quand ce grand Eric me dit « Lise, on fait une journée spéciale immigration, ça vous dit de participer avec Balle au Centre ?» Bon, moi, forcément, tout de suite, je réponds « Bah oui, bien sûr, Eric, on participe !» Bon, ça, c'est tout de suite. Puis après, je réfléchis un petit peu, je réfléchis, immigration, sport et immigration, et heureusement, on réfléchit hein, avec Thibaut, Ben, Kelly, et sport et immigration, finalement, pas mal de choses qui nous viennent en tête et qu'on va... vous exposez ce soir, donc tout d'abord, sport et immigration, nous on a pensé, tout d'abord, le premier truc auquel on a pensé, c'est l'intégration par le sport, donc toutes les valeurs du sport et le fait que sur le terrain, peu importe la nationalité, le sport finalement c'est un jeu, on oublie toutes les différences et pour nous c'est un vrai vecteur d'intégration, on va parler de ça ce soir. Et d'ailleurs, on aura avec nous Amadou sur le plateau. Salut Amadou.
Salut.
Bienvenue avec nous.
Merci.
Pour un petit témoignage sur cette histoire d'intégration par le sport dans le cadre de cette émission spéciale Sport et Immigration. Sport et Immigration, j'imagine que ça a aussi déchaîné la libre plume de notre chroniqueur Ben qui nous exposera ses pensées tout à l'heure.
Je suis au taquet. Salut.
T'es au taquet.
Salut à tous.
Bien entendu, on passera d'ailleurs même avant Ben par une petite info sportive sur ce qui se passe à Florac et alentour. Et ensuite, on fera un petit plateau, quelque chose qu'on fait rarement sur Balle au Centre, mais qu'on fera aujourd'hui parce que sport et immigration, on a aussi pensé à l'immigration par le sport. Et puis à d'autres thématiques, peut-être ça vous dit quelque chose, des histoires de points levés, de genoux à terre, enfin des choses comme ça qui élargissent un petit peu les frontières de Florac. Donc c'est ce qu'on fera ce soir ensemble sur le plateau, avant de passer la quelques petites musiques ensemble. Non, j'ai eu un petit bug parce que ce soir, nos chroniqueurs fous que j'avais prévu d'appeler Kelly Star numéro 9 et Thibaut Cotefélé numéro 10 n'auront pas de chronique et ils concentreront toutes leurs réflexions complètement déjantées sur la question sur un plateau. Et tout de suite, on passe aux infos sportives. Donc aujourd'hui, des résultats des sports les plus pratiqués à Florac, le foot et le rugby, enfin surtout le foot. Donc un petit mot de Flo, le coach que je découvre en même temps que vous. Concernant nos équipes donc, de l'association sportive Tarn et Tarnon, les seniors A, donc l'équipe phare hein, du foot de Florac, sont 3e sur 14 du championnat, départemental 3, donc super résultat, avec 7 victoires pour l'instant, 1 nul et 2 défaites. Les seniors B s'en sortent un petit peu moins bien car ils sont malheureusement 11e sur 12 du championnat départemental 4 avec une victoire, un nul et 4 défaites, mais il est à noter que cette équipe compte 3 matchs de retard. Les filles, quant à elles, donc les seniors féminines, sont 8e sur 9 du championnat féminin de Lozère, une victoire, 4 défaites, mais compte 4 matchs de retard. Les moins de 15, bravo, viennent d'accéder au niveau 1 du championnat Garlozère. Ils sont 3e sur 8 avec 3 victoires et comptent un match de retard. Les moins de 13 sont 5e sur 5, donc là, un petit effort à fournir pour remonter dans le classement. Et les moins de 11, moins de 9 et moins de 7, bon, eux sont pas engagés sur des vrais gros championnats parce qu'à cet âge-là, hein, ça reste quand même du plaisir. Donc Flo nous dit qu'ils font de gros progrès et qu'ils prennent du plaisir à jouer les samedis. Les vétérans s'amusent dans un championnat amical avec les équipes du Gard et de Lozère. Le FSL se porte à merveille et une 60aine de sponsors, super, croient en nos couleurs et nous apportent leur soutien. Il faut saluer le travail des bénévoles, comme toujours dans les assos, tout au long de l'année. Et cerise sur le gâteau, le football Sud-Lozère vient de passer la barre des 200 salariés. Super, donc voilà quelques nouvelles du ballon rond à Florac. Et nous, on va vous en donner aussi quelques-unes du ballon ovale, parce que parmi les chroniqueurs présents sur le plateau, tout le monde était présent au match samedi à 15h qui s'est déroulé à Ispagnac. Thibaut, en tant que numéro 10, qui s'est effectivement illustré avec la venue des pompiers sur le terrain, mais s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il va à peu près bien. Thibaut, donc, il jouait demi d'ouverture dans l'équipe des nouveaux, les Verts. Il était opposé à Kelly dans l'équipe des anciens, qui jouait demi de mêlée numéro 9. Olé, olé. Et Ben était à la marque et moi j'étais à l'arbitrage car nous on souffre encore de quelques petites blessures pas si graves que ça. Donc un beau match, beaucoup d'engagement. Donc les anciens du 15 de la Madeleine étaient revenus ou étaient encore là pour défier les nouveaux joueurs. Donc une équipe entièrement constituée de nouveaux joueurs qui se sont illustrés par beaucoup de talent et d'inventivité et surtout énormément d'engagement. Donc la première mi-temps voyait surtout les nouveaux joueurs, les Verts, imposer leur jeu par une attaque assez fluide et assez bien menée. Et puis beaucoup d'impact, on avait des joueurs beaucoup plus physiques quand même. On rappelle c'est du rugby mix, hein, donc les filles étaient un petit peu moins physiques. Et quand on voit arriver des bulldozers de 1m90, c'est parfois,
je confirme,
parfois un peu dur à plaquer. Mais alors super, super vaillant, tout le monde s'est bien battu. L'équipe des anciens a commencé à se trouver au cours du deuxième tiers-temps et du troisième tiers-temps en proposant un jeu assez envolé, beaucoup d'engagement, des supporters, une buvette, des cris, des hola, des clameurs et au final une victoire des nouveaux, donc les Verts, par 9 essais à 7 contre les anciens en orange. Un match qu'on a fini sous la neige, complètement fatigué, cramé, donc c'est voilà, c'était super, ça faisait du bien de voir du beau jeu comme ça. Donc le petit mot de la coach, bravo à tous les joueurs, je suis très fière de vous, de l'engagement, du plaisir et du beau jeu qui a été proposé.
Et je rappelle qu'on recrute toujours le mercredi soir à 18h45 sur le terrain d'Ispagnac.
Voilà, vous pouvez venir car on s'éclate. Et on passe tout de suite à la chronique de Ben.
La chronique de Ben.
Oh, ce générique, dis donc. Attends, refais-la-moi, mon tube, juste pour voir.
La chronique de Ben.
Ah ouais, trop génial. Alors, ton fils, il me fait déjà le jingle de ma chronique « Le monde marche sur la tête » le vendredi matin. Hashtag « Allume ta radio le vendredi à 8h, hein, bande de feignants, là-haut, allume ta radio !» Bon, là, c'est toi, hein, trop la classe. Et je rajoute 5 chroniques par semaine. Je demande à tes deux frangines et à tes parents de faire le jingle. Et bim, 1-0 pour le jeu des 7 familles, dis donc. Bon, ça va, Tim? Pas de point de côté?
Léger, léger.
Voilà, voilà. Et oui, je suis encore là ce soir sur cette superbe antenne qui nous a parlé toute la journée de la condition des migrants, des réfugiés, des assos qui gèrent tant bien que mal ce flux d'énergie humain qui débarque. Flux d'énergie, oui. Et on emmerde, pardonnez-moi l'expression, ceux qui pensent le contraire. Bon, alors, sport et immigration, hein. Il y en a des trucs à dire, n'est-ce pas? Le sport, qui est un facteur d'intégration absolument formidable, n'est-ce pas, chers amis? Et au rythme de mes pérégrinations internet, j'ai découvert un sport un peu chelou, mais alors qui fait sensation dans d'autres pays et que nous, on connaît pas. Le cricket. Alors, le cricket, sans déconner, j'ai trouvé un sport encore plus compliqué que le rugby, dis donc. Attends, je prends mon papier avec les règles. Attention, on s'accroche. Le cricket est un sport collectif de balles et de battes, opposant deux équipes composées normalement de 11 joueurs chacune. Il se joue généralement sur un terrain de forme ovale, en herbe, le terrain, pas le joueur, au centre duquel, du terrain, pas du joueur, se trouve une zone d'une vingtaine de mètres de longueur. Hein. À chaque extrémité de laquelle on trouve une structure de bois, le guichet. Non mais ils sont chelous les mecs. Hein. Une rencontre est divisée en plusieurs manches. Au cours de chacune d'entre elles, l'une des équipes essaye de marquer des points. Et c'est marqué entre parenthèses course. Hein. J'ai chopé ça sur Wikipédia. Et possède simultanément deux batteurs, un bassiste et 17 guitaristes. Non, je déconne. C'était juste pas assez compliqué. Donc, deux batteurs sur le terrain, chacun devant l'un des guichets. Wouhou ! Un point est notamment marqué à chaque échange de position de ces deux joueurs lorsque la balle est en jeu. Leurs 11 adversaires sont également présents sur l'aire de jeu. La balle est lancée par l'un de ceux-ci en direction du guichet d'un des deux batteurs. Pff. L'objectif de la seconde équipe est d'empêcher la première de marquer. Ça, c'est un jeu génial. Parce que c'est quand même le but de tous les sports un peu collectifs. Hein. Et principalement en éliminant des batteurs adverses. Hein. Par exemple, en détruisant le guichet avec la balle sur le lancer. Alors... Bon alors, si vous êtes comme moi, vous avez certainement pas tout capté. Hein. Non, sérieux, au début, je me suis dit, mais les cricketmen, c'était des baseballers feignants. Déjà parce que leur batte est plate, contrairement à celle du baseball. C'est plus facile, leur batte est plate, leur plate est batte, leur plâtrée de patte, et bim, 1-0, j'ai pas trouvé de blatte. De blague, pardon, excusez-moi. Non, mais après, j'ai compris qu'en fait, le cricket, c'est vachement drôle, et qu'en plus, c'est plus vieux que le baseball, puisqu'il aurait été créé au 16e siècle chez nos copains les Angliches. Qu'est-ce qu'on les aime, nos Angliches. C'est quand même toujours nos meilleurs ennemis, hein, même au rugby, hein, tu vois, le fameux crunch.
Surtout au rugby.
Voilà. Hein. Donc, ils se sont évidemment empressés de l'exporter dans le Commonwealth, qui n'est autre que leurs anciennes colonies. Bon, avec tout ça, vous allez me dire, mais Ben, où veux-tu en venir avec cette chronique alambiquée sur le cricket? Bah oui, je te le demande.
Mais Ben, où veux-tu en venir avec cette chronique alambiquée sur le cricket?
Génial. Et bim, 1-0 pour l'articulation de Liz, dis donc. Eh bien, voyez-vous, si je me suis intéressé au cricket, c'est qu'il y a un petit gars que j'ai appris à connaître grâce à ce sport. Il s'appelle Dawood Armazai. Il vient d'Afghanistan, où il était une vraie star de cricket. En Afghanistan, il habitait la province du Logar, qui est l'une des zones les plus dangereuses du pays, puisqu'entre les mains des talibans et de Daesh. Ces mecs ont quand même tenté de convaincre Dawood de se faire exploser dans un stade, puisque c'est une vraie stade, et que personne ne viendrait le contrôler. Bon, lui, il a évidemment refusé, et c'est pour échapper à la mort qu'il a quitté, je dirais même qu'il a dû fuir l'Afghanistan. Et il n'a pas échappé, toute star qu'il soit, à l'abominable voyage dont sont victimes au nombre d'hommes, de femmes et d'enfants pour arriver en Europe. Aujourd'hui, Dawood est un migrant parmi des dizaines de milliers d'autres vivant dans la précarité. Et il a trouvé refuge à Épinay-sur-Orge, dans un centre Emmaüs en banlieue parisienne. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pu rejouer au cricket. Et on voit dans ses yeux tout l'amour et l'envie qu'il a pour ce sport et de pouvoir rejouer à ce sport. Aujourd'hui, il n'a qu'un rêve, c'est intégrer l'équipe de France de cricket. Bon, même si ça le fait un peu sourire, hein, parce que la Fédération Française de Cricket ne compte que 1500 membres, voilà. Et que l'équipe de France, même s'il ne le dit pas, bah, c'est quand même un peu des tocards qui évoluent en deuxième division internationale, là, hein, je veux dire. Tu vois, le mec, non, mais quand même, il vient d'un niveau absolument extraordinaire, il se retrouve, voilà. Mais lui, il a juste envie de jouer, hein. Mais voyez-vous, chers amis, c'est là que l'on se dit que le sport est un partage. Et Dawood en est l'exemple même. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer à son sport et qu'il devienne universel au maximum. C'est pour ça que je vais m'intéresser de plus en plus au cricket. Bon, alors ça, est-ce que c'est une blague ou pas? Je vous dirai plus tard. Mais en tout cas, des mecs comme Dawood, ce sont ceux qui combattent pour leur vie, pour vivre libre, pour les bonnes valeurs, les vraies, les belles, celles qui font qu'on aime le sport en général. Parce que des exemples comme ça, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Le sport, c'est la vie. Et bim, 1-0 pour la poésie. Bon, voilà. Et avec tout ça, je vous dis juste qu'on va se laisser avec un morceau qui s'appelle Le Passeport. C'est mon côté punk. C'est des gars bien de chez nous.
De Schnorr.
On fait un bisou à Fatih qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Mm-hmm. On l'embrasse très fort. Et puis à Mourad, évidemment, et à tous les copains de la team là-bas.
le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. Et seul et seul, à l'aéroport, attends encore de trouver une bouée, un support. Nager là-bas, serpent boa, loin des fumées d'incendie, sa maison. Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. Corrompre nos pays, amorphe dans l'objectif, foutre le camp d'ici, dans la voiture qui part. Au bord de la route, le touriste a tout, le touriste a tout. Quel est-tu t'attendu un dollar? Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. L'étincelle de vie, la mort se faufile au bras d'un fusil. Le soleil se teinte, une plainte pour la plaine. Le soleil se teinte du temps qui nous saigne. Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation. Pas dépasser le pas, le passeport du petit garçon, né à la rage, à la nage, à la négation.
Voilà de retour sur le plateau et on accueille Amadou. Bienvenue Amadou, salut.
Salut, bonsoir.
Bonsoir, Amadou qui habite à Florac, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Alors je vais vous raconter une petite histoire, chers auditrices, chers auditeurs et chers chroniqueurs et chers Christophe technicien. On était sur le terrain de rugby un soir et puis voilà, on avait mis des petites affiches avec Kelly pour recruter. Et là se pointe Amadou. Voilà, Amadou, donc je vous le décris pour ceux qui ne le voient pas, grand blague, super souriant, super sympa. Et du coup, Amadou, comment es-tu arrivé sur ce terrain de rugby à Ispagnac?
Ben, c'est à travers Kitou qui travaille à...
au CFPPA.
Au CFPPA, voilà, qui m'a informé que vraiment si j'étais intéressé par le rugby.
Mais toi, tu as été allé au CFPPA pour poser des questions sur le rugby ou pour autre chose?
Non, non, pas du tout. Je ne savais pas même qu'il y avait le rugby quelque part ici. Du coup, on s'était croisés comme ça et il m'en a parlé.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là? Pourquoi tu es venu jouer au rugby alors que tu n'avais jamais joué au rugby?
Oui, je n'avais jamais joué. Et du coup, le sport, ça me plaisait avant. Et ben, je me suis intéressé à ça.
Et tu avais déjà fait des sports d'équipe?
Non, bon, ça fait très très longtemps. Quand j'étais petit, on jouait au foot. À part ça, je n'ai pas fait de sports d'équipe quand j'étais grand, quoi.
Et donc toi, Amadou, donc t'es arrivé au rugby par Guillaume au CFPPA, t'es venu le voir pour une formation et il t'a proposé de venir jouer au rugby. Oui. Mais avant ça, comment est-ce que t'es arrivé en France? Comment est-ce que t'es arrivé à Florac?
Je suis arrivé à Florac à travers un regroupement familial, parce que mon épouse habite ici.
Et toi, à ce moment-là, t'étais dans quel pays?
J'étais au Mali.
Au Mali,
je suis malien, oui.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, t'es arrivé à Florac il y a combien d'années?
Il y a une année, 2 mois environ.
Ah ouais, c'est oui. complètement récent.
Voilà, c'est
voilà, récent. Donc là, tu arrives du Mali directement à Florac.
Mali direct Florac.
Ouais, attention, ouais. Il fait froid.
Ah oui.
Ouais.
Franchement, mon premier hiver ici, ça n'a pas été facile.
C'était dur, ouais.
C'était dur. Mais actuellement, je commence à m'adapter. Je commence à supporter beaucoup.
Et est-ce voilà. qu'avec le rugby, l'hiver est moins froid que d'habitude?
Très moins froid.
C'est moins froid. Et alors, alors, du coup, comment ça se passe pour toi, là, le rugby, depuis que tu as commencé? Alors,
ton point de vue de joueur. Depuis que j'ai commencé, mon désir n'est fait que grandir dedans. Et au début, j'avais peur parce que j'ai entendu parler tout le temps que le rugby, c'est un sport de barbares.
Ne les écoute pas, c'est voilà. des légendes. Des légendes.
Quelle idée.
Voilà, c'est un sport barbare, on se blesse, tout ça. Du coup, quand j'ai commencé, je trouve que vraiment c'est génial, ça met en forme, vraiment c'est bien.
Et au Mali, du coup, quel rapport existe au rugby justement? Est-ce que c'est un sport pratiqué, connu, qui existe?
Pas très connu, hein, pas très connu, que du foot, le basket.
Ouais, des vrais sports quoi.
Voilà, des sports. Bon, non, ça aussi autre. C'est un vrai sport, hein.
Non, mais du coup, on n'en parle pas du tout.
Rugby, non, on entend rarement parler du rugby, et franchement.
T'avais déjà vu des matchs avant de jouer?
Non, pas du tout.
Bon, alors ça,
sauf à la télé, peut-être quelques fois, et voilà, c'est ça.
Alors, chers Sinon... auditeurs, chers auditeurs, c'est quand même incroyable parce qu'Amadou, il n'avait jamais trop vu de match, il s'était jamais trop intéressé au rugby. Tout. Et je peux vous dire que sur le terrain, on n'a pas envie d'être en face de lui. Parce que...
Il pense.
Parce que, donc du coup, moi, mon point de vue, hein, Amadou, donc, parce que on joue dans la même équipe, moi, je suis coach hein, avec ouais. tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui, mis à part Christophe, sinon Ben, Thibaut et Kelly. Ouais.
Donc, je n'ai pas trop le gabarit pour être sur un...
attends, tu nous as vu là. Je crois que... Les tout petits que là. Et attends, Amadou, il fait 4 fois notre carrure.
On va mettre une photo de nous pour les auditeurs ouais, sur la page de Balle au Centre pour qu'ils voient un petit peu à quoi ouais. ressemble l'équipe de rugby. Et donc du coup, ouais, quand Amadou t'es arrivé, bah, j'ai bien vu que t'avais jamais joué au rugby et qu'au début, c'était pas évident de comprendre les règles, tout, etc.
Oui,
et en tout cas, ben, bravo parce que super, super progression.
Merci.
Et à un moment, t'as eu vraiment un déclic, quoi. Et là, tu t'es mis vraiment à capter le jeu. Je sais pas, tu l'as ressenti comment, toi, ça?
Oui, ben, j'ai senti que franchement, j'ai fait un peu de progrès.
Ouais,
un sport que j'ai jamais pratiqué. Franchement, avec l'amour que j'ai subitement eu envers ces sports, ça me donne envie de progresser et de faire mieux, quoi, vraiment.
Alors, moi, je voudrais te poser une question, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans le rugby? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ce sport?
Ben, ce qui m'intéresse dans le rugby, c'est que c'est un sport vraiment qui c'est collectif et puis ça crée aussi des liens. Et voilà, et puis.
C'est la famille rugby qui te, que,
voilà,
que tu aimes.
Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà.
La solidarité,
ouais,
les copains.
Ça, vraiment, vraiment.
Et les copines.
Et c'est ça.
et du coup, effectivement, Christophe, merci de ta question. Tu es complètement dans le thème. Est-ce que, du coup, comment t'as ressenti, toi, l'intégration dans cette équipe? Alors, c'était compliqué aussi parce que tu ne savais pas jouer. Et du coup,
oui.
Pour moi, ce n'est pas aussi facile. En tant que coach, j'ai essayé de faire en sorte que tout marche bien. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été un peu dur un peu...
Au début, c'était un peu dur parce que, de nature, je suis quelqu'un un peu timide. Vraiment, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont facilité l'intégration à l'équipe. Franchement, tout le monde est sympa avec moi et tout le monde rigole. Vraiment, c'était bien, quoi.
C'est parce qu'il y a Kelly qui a raconté des blagues qu'on rigole.
Franchement, c'est bien, franchement. Tout le monde est sympa et ça m'a facilité d'intégrer et puis d'avoir un certain progrès dedans, quoi.
Et du coup, pourquoi est-ce que tu crois que le sport en général peut permettre l'intégration? Est-ce que c'est propre au rugby ou est-ce qu'on pourrait trouver, parce que justement tu disais tout à l'heure par rapport au foot ou etc. Oui. Est-ce que tu crois qu'on pourrait trouver cette intégration-là dans tous les sports ou est-ce qu'elle est propre et qu'il y a quelque chose en plus au rugby à ton avis?
Mais à mon avis, pas que du rugby, excusez-moi. Dans tous les sports collectifs, franchement, l'intégration, ça peut créer favoriser l'intégration, si je peux me dire, permettre de dire comme ça. Mm-hmm. Mais le rugby, c'est franchement particulier, quoi, parce que c'est un sport où on a le contact permanent avec ses adversaires. Et franchement, c'est...
Ça facilite le dialogue.
Voilà.
demande à Thibaut, il se marre depuis tout à l'heure, mais il a mal aux côtes.
Ouais. Ouais.
On s'excuse plus souvent.
Vraiment, c'est ça, c'est ça. Ouais.
Ok, et du coup, c'est quoi que tu aimerais encore plus progresser dans ce sport?
Bien sûr.
Et c'est quels aspects techniques tu penses qui te manquent ou que tu aimerais un peu plus t'approprier?
Bon, ce qui me manque, c'est les postes, pour pouvoir maîtriser beaucoup les postes dans le rugby, comme dans le foot. On sait l'aile gauche, latéral, milieu de terrain, tout ça. Bon, dans le rugby, j'aimerais bien vraiment maîtriser ça.
Et tu avais déjà fait du foot, un petit peu?
Un petit peu, oui.
Et pourquoi en arrivant ici, alors la grande question, tu as choisi de faire du rugby et pas du foot?
Oui, au début, j'avais envie d'intégrer au foot. Bon, du coup, c'est par coup de chance que je suis tombé sur le rugby, sinon j'avais envie d'intégrer dans l'équipe de foot.
Ok, ouais, ça marche.
Ouais.
Et est-ce que tu retournes des fois au Mali?
Bon, depuis que je suis venu, je ne suis pas retourné d'abord pour le moment. Oui.
Tu vas retourner bientôt?
Bon, si tout va bien, oui. Si tout va bien.
Est-ce que tu vas y retourner avec
Si les conditions sont remplies, j'aimerais bien retourner pour... voilà.
Et est-ce que tu vas y retourner avec un ballon de rugby pour apprendre
bien
à
sûr,
tes copains?
Bien sûr, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Peut-être que je ferai la promotion du rugby là-bas, chez moi.
Bah ouais, oui. Super.
Et est-ce que, du coup, tu t'intéresses à la situation du Mali aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment ça
évolue? Oui, je m'intéresse beaucoup à ça. Je suis les actualités. Et voilà. Et on ne peut pas ne pas y penser, quoi.
D'accord.
Il y a la famille, les amis. Et voilà.
Et du coup, peut-être pour les auditeurs ou auditrices, on dépasse un peu le cadre du sport. Mais justement, tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé?
Ben, c'est un problème qui est très, très approfondi et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis après l'indépendance, il y a une partie du pays qui se rebelle tout le temps. Voilà, et du coup, maintenant, ils veulent leur indépendance et ils ont pris des armes. Après, il y a des djihadistes qui se sont mêlés, ça a empiré la situation. Il a fallu que la communauté internationale, appuyée par la France, intervienne pour que ça puisse vraiment aller, quoi. Voilà. C'est un problème qui est très, très compliqué. C'est un peu compliqué.
Moi, j'aurais une petite question aussi. Oui. C'est, est-ce que dans le gouvernement malien, est-ce que toutes les tendances de la politique malienne sont représentées dans ce gouvernement? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer dans ce gouvernement? Ce qui fait qu'il peut y avoir des rébellions après, à droite ou à gauche?
Je dirais un peu non. Il y a presque toutes les tendances. La majorité dans le gouvernement, c'est les sudistes, on peut dire comme ça. Mais quelquefois, il y a des ministres, des députés. Dans l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de nordistes qui sont dans l'Assemblée. Et quelquefois, il y a des ministres, voilà. Il n'y a pas d'exclusion, quoi, à mon avis. Oui.
Ouais, merci pour ces sujets, questions un peu graves. Merci Amadou d'avoir répondu à nos questions. Tu restes avec nous pour le plateau qu'on commencera ce morceau de musique. Et puis on se rend compte à travers ton témoignage que nous, on a de la chance ici de faire du sport, de finalement réfléchir à des choses aussi futiles que des jeux qui sont que des inventions humaines. D'accord. Parce qu'on a la chance effectivement de pas faire la guerre aujourd'hui et de juste petites batailles sur le terrain.
Oui.
Kelly, tu nous as choisi un petit morceau de musique pour la suite.
Oui, donc c'est Supreme MTM, c'est arrivé près de chez vous, tout comme la chanson d'avant, le passeport de mon côté punk. Je trouvais qu'elle était de circonstance, je vous laisse écouter pourquoi.
abandonner. Non, pas le moment d'abandonner. Au microphone, le bouc d'en bas, prêt à se péter pour des scalpas. Ouais. Pas par choix, non, c'est la vie qui veut ça. Et sincèrement, je serai pas. C'est sûr, en aucun cas, grand comme une bêta. Je roule en bas, allez là, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens pas que ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi. Et pour moi, l'exclusion, c'est aussi simple que ça. C'est rien que du direct live et les choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères. Le peuple subit, subira. Le vent contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout temps. Pour les problèmes latents, tant qu'ignorer, sauf quand faut se faire réélire. Mais attends, y'a pire. Si t'attends le réveil des foules, si tu conspires, on nous tient à la gorge par le biais de grandes espérances. C'est comme ça que subsiste l'attentisme en France. Dans ce pays où on laisse passer l'intolérance sans se masser pour contrer les suppôts des survivants du passé.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, tout donner. Après de changer les données, lutte sans le goin, le clan. Le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, tout donner. Après de changer les données, il sent le coin, nos cloques. Le Glock va détonner. Maîtriser un temps péri, Babylone m'étreint. J'ai des péris paumés à me demander où est le bon chemin. J'suis pas le seul dans ce cas à vivre en astreinte. On est tout un tas près de chez moi à vouloir porter plainte. La populo demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, le FN montre qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. Nos nerfs et l'effet de serre les auront à l'usure. Trilon, ça ne s'efface pas si sûr et non. Y'a trop de NTM peint sur les murs. Bloc par bloc, les cités des blocs. Le lascar moyen vide de troc. Chasse le gaz, puis il débloque. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard. Place au jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes barres. Survie oblige, c'est un système barbare. On ne va pas colmater la fracture sociale de plat de fuite. Encore plus qu'en 68, va falloir se battre.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner.
Y'a qui c'est que dans les églises, les CRS, on peut faire des pères qui se profent chez nous. On se décivilise, on se trompe quand on vise. Et puis s'il y a meurtre, on déguise l'affaire. On dit qu'il y a méprise. Technique de déguise, bien connu. Tu restes reconnu, devenu quelque chose de convenu. Les bavures sont au menu, je te souhaite la bienvenue. Dans la France de ceux qui pensent qu'en banlieue on peut pas penser, puisqu'on pense qu'à danser. Rapper sur des beats cadencés. Omar qui pense cycler. 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés. Donc c'est clair que c'est pas gagné. Qu'avec leur vision bornée, je me dis même que le mec restera le pays, il est pas encore né. Ouais, c'est ici qu'on vit, et c'est ici aussi qu'on fissie. La plus grande bande de fachos qui fissie. Peur en son temps fissie, on laisse couler, on est mort.
On prend les couilles du port.
Ouh, ça c'est fort, mais y'a plus fort encore. Y'a des ex-nouveaux ministres grillés qui viennent parler, se faire réélire à la télé, briller, crier leur innocence riée. Pour qu'on oublie que l'histoire du sang contaminé, c'est pour du fric et non pas trier.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez.
Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, tout donner. Afin de changer les données. Lutte sans le coin, le clan, le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, tout donner. Afin de changer les données. Lutte sans le coin, le clan, le bloc va détonner.
Yeah, jive pour l'afro, change les données. Michel pour tout donner. Le R, kick le pour tout donner. R-O-B-O et la loco, le Glock va détonner. 9-3,
c'est arrivé près de chez toi. Presque sous ton nez. Pour un 9-9-8. Non, pas le moment d'abandonner.
Faut changer les données.
Et on se retrouve sur le plateau de Radio Barthès sur le 107 pour ce bal au centre spécial immigration. Il est l'heure de notre nouvelle thématique, la question sur un plateau. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous avons préparé 3 petites histoires. Et on commence par l'histoire de Lise. Aujourd'hui, je fais une petite thématique sur l'immigration par le sport. Donc il était une fois un sport absolument génial, un sport qui s'appelle le rugby, un sport de passionnés, un sport de copains, un sport de village, et un sport où chacun a sa place, où les gens se complémentent, enfin j'arrête un peu là les éloges et je vous invite à écouter le tout premier bal au centre qui traite de cette thématique-là. Ce sport était tellement génial qu'à la fin du XXe siècle, dans un peu une histoire de course à l'argent, course à la professionnalisation, on a vu arriver les premiers contrats pro et avec la monétarisation du sport, on a vu une certaine internationalisation de ce sport et une certaine déshumanisation. Il était une fois un joueur de rugby qui jouait dans les îles Fidji. Et il était une fois un club de rugby que je ne nommerai pas. Ce club de rugby se dit, tiens, mais si on paye nos joueurs en France, peut-être qu'on pourrait aussi faire venir des joueurs d'autres équipes. Après tout, je ne suis pas le premier club à faire ça. Ça a commencé au foot, au rugby, ça se généralise. Donc moi, gros club de rugby de France, je vais chercher des sponsors, je vais chercher des sous et je vais chercher des joueurs, des Fidjiens qui sont hyper baraqués. Et eux, si je leur propose au final 5000 euros de salaire plus 5000 euros de prime au match, ben c'est clair que le mec, il débarque avec des Fidji, il vient chez moi. Donc se mettent en place les contrats Fidji-France, France-Fidjien. Et un jour, un joueur des îles Fidji débarque en France. Sans sa famille, ouais, parce que sa famille voulait pas forcément venir en France, il fait froid, eux ils sont restés aux Fidji. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai des sous et ça continuera comme avant. Donc une équipe finalement qui se retrouve de temps en temps composée par 10 ou 15 joueurs internationaux sur le terrain et les joueurs français des centres de formation qui sont en concurrence avec les joueurs de l'international. Et après tout, pourquoi pas, ça reste du sport, mais aussi pourquoi au final, pourquoi tout ça, pourquoi tout ce mouvement, pourquoi toute cette immigration et pourquoi des joueurs qui sont loin de leur famille, loin de chez eux. Donc ça commence bien, hein, le joueur du Fidji, il est tous les jours, tous les dimanches dans l'équipe, tous les dimanches au top, mais un jour, il se blesse. Et là, tu te blesses, tu te retrouves dans une ville de France, tu connais personne, t'as pas ta famille. Et du coup, déjà, t'as pas tes 5000 euros de prime à la fin du mois. Donc déjà, t'envoies beaucoup moins de sous à ta famille. Puis ils sont loin, donc tu peux pas y aller. Et du coup, commence une sorte de lassitude, de solitude pour le joueur fidjien. Et puis, quand on s'ennuie comme ça, tout seul, loin de sa famille, loin de sa tribu, loin de ses habitudes, ben, des fois, petit penchant pour des drogues dures ou douces, et puis pas moins que l'alcool, ouais. Donc ça, c'est la réalité de pas mal de joueurs immigrés aujourd'hui. Et puis, la famille qui est loin, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et puis moins de sous, et puis on grossit, et puis c'est un cercle vicieux en fait. Hein, on ne joue plus, on n'est plus sélectionné. Les managers des grosses équipes de France, ils ont beaucoup moins de temps pour penser à toi. Et puis un jour, eh ben, c'est une histoire vraie, elle n'est pas forcément drôle. Eh ben, le Fidjien, il prend un flingue et bam, il se flingue.
Oh là là.
Eh ouais. Voilà, donc voilà, c'était ça ma petite histoire, c'est pas une histoire drôle, mais c'était un petit peu voilà, pour faire réagir sur le plateau sur cette histoire de déshumanisation du sport qui rend un sport génial complètement monétarisé et parfois dramatique. Ben, ça t'inspire ?
Ouais, mais c'est choquant, blessant, et voilà, comme quoi, même si tu gagnes 5000 ou 10000 euros par mois, en ayant quand même une famille à charge qui est loin, etc., et tu te retrouves seul et totalement perdu, enfin, je veux dire, à partir d'un moment, je me doute que bah, tu penses à tout ce qui est dépression et tout ce qui peut s'en suivre, alcoolisme et forcément suicide. Mmh. Voilà, et je me dis aussi, c'est le rugby est quand même un sport assez étonnant qui développe des valeurs assez grandes, quoi. On en parlait tout à l'heure avec Amadou, voilà. Et en plus, il a une, mais tu m'arrêtes si je me trompe, il y a une particularité aussi, c'est que j'avais vu, alors tout de suite, hein, si je me trompe,
vas-y,
voilà,
vas-y, je complète.
C'est qu'au bout de 5 ans dans un pays, ouais, etc., on peut être naturalisé pour l'équipe nationale et jouer pour l'équipe nationale.
Si tu n'as jamais joué dans l'équipe nationale du pays d'où tu viens.
Très bien, d'accord.
Voilà, donc c'est le cas par exemple de Peter de Villiers qui est sud-africain et qui n'avait jamais joué en Afrique du Sud. Il est arrivé en France, il a joué dans un club français. Au bout de 5 ans, il a pu intégrer l'équipe de France.
Mais là, pour le coup, faut forcément montrer quand même un niveau international de grande envergure.
Effectivement, pour arriver en équipe de France. Donc là tu as cette problématique effectivement de l'équipe de France et de la nationalisation de certains joueurs. Donc pour le jeu, mais tu as aussi actuellement énormément de clubs de villes, en fait, hein, du top 14, donc le premier niveau au rugby, qui font venir des joueurs et en fait qui les achètent, parce que 10 000 euros pour un joueur français, un bon joueur français, je pense que c'est pas beaucoup. 10 000 euros pour un bon joueur fidjien, bah c'est énorme, hein, comme salaire. Et donc s'il y a une double problématique, effectivement, cette histoire d'immigration par le sport et de solitude et de dérive. Je t'ai vu un petit peu réagir là-dessus. Ça t'a touché, cette histoire? Ça t'a rappelé certains trucs?
Bien sûr, franchement, et c'est regrettable pour lui. Et c'est vraiment regrettable, quoi.
Ouais, moi, je trouve qu'on déshumanise le sport. On cherche à former des équipes de machines, en fait, quoi. Et ce qui est dur, là, c'est la solitude de... Tu brilles, il y a tout le monde derrière toi, et t'arrêtes de briller... T'arrêtes de briller, ben on t'oublie, on t'es tout seul, quoi.
Vraiment, c'est décevant.
Alors, est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes? C'est-à-dire qu'à travers la télévision, on va voir que tu es sportif, tu es adulé, tu es une vedette. La vie devient facile pour toi. Donc après, il y a un recruteur de club qui va venir et qui va te dire « Bah écoute, je trouve que t'es bon, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Ah, tu vas te dire « Ça y est, l'Eldorado s'ouvre à moi et tu vas venir. » Et finalement, bah, c'est peut-être un cauchemar qui arrive parce que ça répond pas tout simplement à tes attentes. Et ça, c'est les méfaits de la professionnalisation du sport, je crois.
Et on a le problème en sens inverse aussi. Hein. Je sais pas les copains et copines si vous avez déjà vu, mais par exemple l'équipe du Qatar de handball, en fait, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est à coup de pétrodollars où on va acheter des joueurs français, anglais, etc., qui n'ont pas forcément ou plus forcément leur place dans les équipes nationales, etc., et qui vont se retrouver monnayés pour aller jouer au Qatar. Et d'ailleurs, on a vu que le Qatar était finaliste ou demi-finaliste du dernier championnat du monde. Et on arrive quand même dans de la monétisation, comme tu dis, qui est ultra dramatique et qui fait qu'une équipe nationale, au final, n'est plus une équipe nationale. Puis va-t'en jouer au Qatar
Oui, et puis toute ta vie privée, enfin, ta famille, tes amis, tout ça,
vraiment.
Et changement de culture, bah, que t'as vécu aussi à Madou. Bon, toi, t'es pas venu, c'est pas le rugby qui t'a amené là,
c'est vrai.
T'es arrivé, c'est quel choc aussi d'arriver dans un pays, de connaître personne.
Oui, ben, c'est un choc que j'arrive à surmonter. Sinon, par rapport à ce qu'il disait, là, même chez nous, dans notre équipe nationale, ça n'avance plus. Parce que tous ceux qui brillent un peu, ils veulent venir en Europe pour rentrer dans les grands clubs. Voilà.
Oui, Christophe l'a bien expliqué. On peut faire une sorte de parallèle avec la ruée vers l'or. Quoi. Ça brille, on y va. Si on ne trouve pas l'or ou si c'est très cruel le sport pro, un tout petit paramètre se casser la gueule, on est fini. C'est déjà le cas, je pense, sur des histoires de blessures. Mais alors, des histoires de déracinement de la culture comme ça, c'est encore plus terrible.
Ah oui.
Et du coup, là tu parlais de l'équipe nationale du Mali, par exemple en football.
Oui.
Ça, nous on suit alors de très loin le football africain, même s'il est d'une qualité moi que je trouve fantastique.
Oui.
Le Mali et la CAN, du coup, la Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui ils en sont où, le Mali? Est-ce que grâce au football, là pour le coup, on arrive à rassembler vraiment ce peuple qui se divise entre le sud et le nord, comme tu disais, ou pas?
Oui, bien sûr. À un moment donné, au temps de notre ex-président Amadou Toumani Touré, le Mali a été en demi-finale en Coupe du Monde. Ça a été vraiment un facteur...
La CAN.
Oui, en CAN.
Oui, pas la Coupe du Monde.
On avait pas
Je sais que tu en rêves, mais alors j'adorerais voir une équipe africaine en demi-finale de la prochaine Coupe du Monde, mais la CAN, ouais. Non, il n'y a pas de souci.
Excusez-moi.
Le problème, c'est l'émotion.
En Coupe d'Afrique qui a été organisée au Gabon, qui a été co-organisée par le Gabon et le Centrafrique.
Ouais.
Le Mali a été troisième. Vraiment, ça a été un facteur de cohésion entre la population. Vraiment, c'était bien. Mais du coup, depuis lors, le Mali n'arrive même plus à avancer dans le foot, quoi. Et actuellement, franchement, ça ne va pas. En matière de football, on est un peu derrière, quoi.
Ouais. C'est quoi? C'est vraiment la situation politique qui fait, ou les infrastructures qui ne suivent pas, ou vraiment...
C'est vraiment la situation politique qui est à la base de tout. Et puis la Fédération malienne de football aussi, il y a beaucoup de problèmes entre les dirigeants et voilà, quoi.
Et il y a des grands noms de joueurs de football maliens.
Oui, il y avait...
Adebayor, non.
Adebayor, lui, je crois que lui, il est nigérien.
Nigérien.
Et les grands joueurs du Mali, il y a Seydou Keïta. Voilà, il y avait Mamadou Diarra Dila aussi. Et dans le temps, il y avait Salif Keita qui a ouvert un grand club au Mali qui marche très bien. Mm-hmm. Voilà, il entraîne, il a du moins une école de foot au Mali qui marche très bien. Voilà, il a formé beaucoup de talents à son niveau. Et il y avait aussi. Quel joueur encore
Et surtout, bientôt, il y aura Amadou qui fera la première grande école de rugby du Mali.
Ça me fera plaisir.
Il était une fois encore une petite histoire. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'heure de la petite histoire de Thibaut.
Et bonsoir, bah moi je vais vous parler du genou à terre et du point levé, des actes forts de revendication qui passent par le sport. On va faire un peu d'histoire pour se remémorer le contexte de ces actes. Donc ça commence en 1968, Tommy Smith et John Carlos brandissent un point levé ganté noir, les yeux rivés au sol pour pas regarder la levée du drapeau américain. Il s'érige contre le racisme et l'exclusion dont sont victimes les Afro-Américains aux États-Unis. L'intolérance et les crimes racistes empoisonnent toujours l'intégration de la communauté noire. Pour vous remettre pareil dans le contexte, Martin Luther King est assassiné 5 mois plus tôt. À l'époque, leur geste est perçu comme un acte politique, alors qu'aucun des deux sportifs n'est affilié à un mouvement politisé. Ils sont aussitôt bannis des jeux, interdits de compétition à vie. Menacé de mort, viré de leur emploi, il y a même une de leurs femmes qui se suicide, enfin c'est un vrai désastre. Et il faut attendre la fin des années 80 pour que leur action soit reconnue et pardonnée. Et leur courage ne sera que véritablement honoré dans les années 2000. Donc leur geste réussit à dénoncer la ségrégation qui continue malgré son abolition en 1964. Et on peut dire que c'est un geste humaniste, libertaire, revendicateur et engagé, dont le sport a été le tremplin médiatique du fait de son audience à un événement comme les JO qui rassemble énormément de monde quoi, devant les écrans. Et on a quand même réussi à faire passer pour un acte politique une dénonciation à l'atteinte des droits de l'homme, tout simplement. Donc pour être aveugle, c'est quand même pas mal, on est fort. Et du coup, on découle après ce nouveau symbole qu'est le genou à terre, qui apparaît en 2016 pour protester contre les meurtres répétitifs de personnes de la communauté afro-américaine, perpétrés par la police, on va dire, blanche des États-Unis. Face à cet acte, Donald Trump réagit magnifiquement bien, je vais le citer parce que c'est tellement génial que... Donc, je cite, il nous dit « Sortez-moi ce fils de pute du terrain, il est viré, il est viré. » Merci. En rajoutant que c'est un manquement de respect au drapeau américain et toutes ses valeurs. Enfin, voilà, je vous épargnerai du reste. Ça, c'était en 2016. Cette année, il vient de refuser de recevoir l'équipe de basketball, les State Warriors, vainqueurs du dernier championnat. En cause, l'opposition du meneur de jeu face à la politique de Trump, face à sa politique, quoi. Donc, ce bon vieux Donald, il nous prouve son intention de politique totalitaire hein, face à la différence d'opinion de certains sportifs. Et bah, je vous laisse imaginer la hauteur du débat au sein de la Maison Blanche, quand même. Donc voilà pour ces gestes que je voulais un peu développer avec vous. Voilà, engagement, on va dire, de conviction à travers le sport, quoi. Que le sport permet de mettre un peu à jour, mais que la répression est bien là.
Ouais, et en fait, moi, ce qui me frappe en plus dans le premier exemple, dans le deuxième aussi, mais plus dans le premier, c'est pas le vif du sujet, mais c'est aussi la force médiatique du sport. T'es au JO, toutes les caméras sont braquées sur toi, et c'est le... Comment dire, l'occasion, c'est un vecteur de véhiculer des idées, voire de les manipuler, comme tu as pu aussi le signifier. Et c'est là qu'en gros, c'est les débordements du sport, quoi. Au début, on est quoi sur du foot, de la course, enfin bref, des choses finalement très très simples et très dénuées de toute ambition politique ou quoi. Et puis comment à un moment, il y a un message qui se crée, qui est véhiculé ou qui est parfois... manipulé.
Moi, je comprends que c'est sportif. Il y a un moment, ils gagnent une compétition, comme Tommy Smith et John Carlos. Ils arrivent plus à être heureux de leur victoire, quoi. Il y a un moment, quand c'est trop lourd, ouais. On est obligé de faire passer un message qui touche toute une communauté. Et voilà, et c'est pas forcément politisé, juste de dire on a gagné, voilà, vous nous filmez, on est pas heureux, mais on aimerait l'être, mais on peut pas l'être, quoi.
Bon, on se souvient des prises d'otages des Palestiniens.
À Munich, ouais.
Voilà, à Munich. Hein.
Ah oui.
Très très fort aussi.
Ouais. C'était quoi? C'était lors des JO aussi ou
ouais, des Jeux olympiques, oui. Ouais, ouais, ils étaient venus dans le village olympique et ils avaient kidnappé des Israéliens. Voilà, en dénonçant leurs conditions dans la bande de Gaza. Et voilà, ils avaient profité de cette tribune des Jeux Olympiques et de toutes les caméras braquées à travers le monde sur ces Jeux Olympiques pour dire, nous, peuple palestinien, voilà, il nous arrive des choses quand
ouais,
même.
Pour faire passer des messages, ouais.
Médiatiquement, en plus de ça, et pour revenir sur l'effort sportif qui donne aussi, parce que c'est des hommes et des femmes qui se défoncent quand même pour arriver à la performance ultime, quoi, pour être et donc à un moment submergé par leurs émotions, leurs trucs et puis leur quotidien qui devient à un niveau tellement ouf que forcément tu vois ces gestes là sont forts, quoi, et en même temps moi je trouve que cette tribune elle est vachement bien aussi, quoi, tu vois, elle permet de mettre des doigts sur des choses qu'on n'aurait peut-être jamais vues si jamais il ne l'avait pas fait, quoi, tu vois, et
ouais et puis ça apporte aussi, enfin il y a le côté positif et négatif, c'est clair, mais c'est vrai que dans le côté positif ça amène des choses et puis ça, enfin voilà, ça montre qu'un sportif c'est pas qu'un sportif entre guillemets, quoi, et qu'il y a peut-être des souffrances qu'il a par rapport à lui, par rapport à un peuple, et qu'il les porte sur la bannière internationale, enfin sur la scène internationale. Ça c'est vrai que c'est assez beau, mais après il y a aussi des choses assez honteuses, voilà, donc là je passe plus sur ton deuxième exemple, donc Trump qui interdit l'équipe de basket, je sais plus ce que t'as dit, de jouer ou quelque chose.
Non, d'être reçu à la Maison Blanche parce que c'était les vainqueurs de la saison et Trump refuse de les recevoir parce que le meneur de jeu s'oppose à sa politique.
A mis le genou à terre et s'est opposé à sa politique.
Voilà, ouais. Exactement, et du coup il refuse de les recevoir alors que c'est protocolaire, quoi. Enfin je veux dire, normalement le vainqueur doit avoir sa petite heure de gloire à la Maison Blanche. Et j'avais vu une interview qui disait que normalement ça devait être un honneur, mais que là toute l'équipe n'avait. Enfin, ils étaient heureux qu'on ait refusé l'invitation.
Ok.
Ça les dérangeait pas du tout, au contraire.
Ouais, mais je comprends, mais là c'est un petit peu. Enfin, voilà, là c'est justement aussi la force d'un message. Et puis, comme dit Ben, au moins ça met en lumière quelque chose, quoi. Mais voilà, peut-être qu'on parle enfin de ça, de joueurs qui s'indignent. Entre guillemets, grâce au fait que Donald Trump ne veuille pas les recevoir. Enfin, c'est complètement honteux, mais au moins ça fait le buzz, ça éveille les médias, les consciences publiques.
Alors que philosophiquement, peut-être que le sport, lui, doit. Deux nations qui s'affrontent sur un terrain, ça doit se régler quelque part de manière pacifiquement à travers le jeu.
Ouais.
Voilà, au lieu de. C'est peut-être un échec du sport qui est devenu tellement médiatique que. Ces règlements internes à travers le sport où on le fait pacifiquement à travers un match de foot, un match de rugby, là du coup vu la médiatisation ça prend d'autres ampleurs et ça perd de sa substance initiale.
Je suis d'accord avec toi, voilà, là on a bien vu je trouve les deux côtés, quoi, le côté on met quelque chose sur le devant de la scène mais au final on se sert entre guillemets du sport pour être un vecteur de quelque chose qui n'est pas à la base, c'est ce que je disais un petit peu, on a la chance de faire du sport, de faire des matchs entre deux nations parce qu'elles se font pas à la guerre pour de vrai, elles se font la guerre pour de rire sur un terrain ou sur une piste d'athlétisme, enfin juste sur des performances humaines qui sont remarquables, mais normalement, il n'y a pas d'animosité. Donc, c'est vrai ce que tu dis, quoi, on perd le truc initial du sport, où normalement, c'est dénué de tout le reste. Quoi, et c'est ce qui est beau dans le sport aussi, c'est justement, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de message, il n'y a personne derrière à la base, mais c'est aussi un peu instrumentalisé, un peu, beaucoup.
C'est beau.
Une nouvelle petite histoire, attention, chers auditeurs, chères auditrices, il est l'heure de la petite histoire de Ben.
Mais non, et en plus, elle corrobore parfaitement tout ça. C'est à partir de quel moment un sportif peut faire en sorte que les masses ne soient pas suivies. Vous vous souvenez de Jesse Owens? les copains. C'était en 1936 au JO de Berlin.
Tes copains n'étaient pas nés?
Ah non, alors là on est loin, très très loin. Non mais vous en avez sans doute déjà entendu parler, hein, c'est cet athlète noir américain qui a pulvérisé tous les records à Berlin devant Adolf Hitler en fait. Hein. Pour ne pas le citer, désolé, j'avais dit que je ne le ferais pas. Et il a battu le record du 100 mètres, du 200 mètres, et il a battu le record du 4x100 mètres aussi. Et il a battu le record du saut en longueur devant un Allemand qui s'appelait Lutz Lang, en fait. Et à la fin de ce concours de saut en longueur, il était tellement disputé avec l'Allemand qu'à la fin du concours, ils se sont pris dans les bras tous les deux, Jesse Owens et Lutz Lang. Et c'est là qu'on a vu, en fait, que l'Allemand, il n'en avait rien à secouer de ce qui se passait dans les travers de la politique, etc. Il a juste dit, mais ce mec est génial. Et il l'a pris dans ses bras. Ce sont devenus les meilleurs amis du monde, en fait. Lutz Lang, après, a été décoré par la médaille Pierre de Coubertin, c'est du fair play, etc. Et moi, ce que je me dis juste un moment, c'est que le sport permet aussi parfois de pas suivre des masses, tu vois, et de complètement refuser des politiques qui sont absolument aberrantes, et de nous faire rentrer dans un cercle d'acceptation de l'autre, des valeurs qui sont absolument géniales, malgré les contextes politiques quand même qui sont parfois assez douloureux. C'était ma petite histoire, voilà, que je trouve très très jolie et très jolie.
Ouais, mais c'est magnifique, c'est clair. Enfin, c'est un exemple, encore une fois, porté sur la scène internationale de choses qu'on vit tous les jours. Et puis là, on parle d'immigration, donc on parle de nationalités différentes. Mais il y a même juste des fois des gens que t'aurais jamais fréquenté, à qui t'aurais jamais trop parlé dans la rue parce que juste c'est pas ton style, entre guillemets, tu vois, comme on dit aujourd'hui. Toi, t'es dans tel état d'esprit et celui-là. Et puis en fait, tu te retrouves dans la même équipe. Et effectivement, tu te prends dans les bras, t'es complètement fou, t'es complètement euphorique et tu t'en fous de ce qui se passe à côté. Et c'est ça qui est beau, en fait, quoi. Effectivement, c'est de, il y a plus que la valeur d'un truc que tu partages, et pour moi c'est pour ça que c'est génial le sport, c'est parce que tu, enfin voilà, c'est le partage de trucs que, vu que t'es que dans le sport et que dans les règles et que c'est passionnant, t'oublies tout le reste, en fait. Et après, on peut se dire que le sport, c'est complètement quelque chose d'une invention humaine complètement artificielle, mais en fait des fois tu reviens à des trucs tellement essentiels, tu te demandes si c'est pas le reste qui est complètement artificiel, quoi.
C'est sûr que le sport casse tous nos codes et nos barrières sociales, ouais, quand on est dans une équipe, ce que tu disais, Amadou, quoi, ouais, c'est que on aura beau être ingénieur, ouvrier, paysan, enfin, on est tous à côté d'un ballon, à monter une stratégie commune et à savoir comment, voilà, on peut évoluer ensemble et marcher ensemble, ce qu'on fait plus trop maintenant, quoi.
Ouais, c'est clair, ça c'est beau. Et puis pour revenir sur ce que vient de nous dire Ben, même quand on est adversaire, en fait, c'est ça qui est beau aussi dans ton exemple, c'est que des fois, quand t'es adversaire, bah, tu commences à avoir tes meilleurs adversaires, on va dire, ou ton meilleur adversaire à un point de vue individuel, et puis finalement, bah, ce mec, Lutz Lang, Owens, ils se battent l'un contre l'autre, et puis au final, bah, ils se connaissent, enfin, leur souhait le plus... On dit des fois, tu respectes le plus ton adversaire quand t'as le plus envie de le battre, en fait. Donc là, leur souhait le plus cher, c'est de battre l'autre. Et puis voilà, au final, ils sont... Enfin, comme t'as dit, c'est super beau, ils sont devenus les meilleurs amis du monde parce qu'ils ont vécu un truc en commun, tout simplement, même s'ils voulaient se battre. Je trouve que quand t'es dans la compète, tu veux gagner. Et puis une fois que c'est fini, c'est plus ça qui est fort, c'est tous les liens que t'as créés avec ton équipe ou parfois avec tes adversaires. Et c'est là que c'était beau dans ton exemple.
Ouais. Les forfaits d'air.
Voilà, les forfaits d'air.
La troisième mi-temps aussi.
Et sur ces belles paroles, ça fait pile une heure qu'on est à l'antenne, donc je tiens tout d'abord à m'excuser 40 000 fois pour ce retard exceptionnel, je vous promets, de cette émission. Tout d'abord par rapport à Christophe le technicien qui reste un peu plus tard, par rapport à mes super chroniqueurs qui m'ont attendu et à mon invité Amadou. C'était juste un tout petit peu compliqué ce soir pour moi avec le verglas sur la corniche des Cévennes. Mais on y est arrivé et je merci à tous pour ces beaux témoignages. C'était chouette, c'était émouvant. On a donné un peu de hauteur philosophique et internationale à Val-au-Centre. Je trouve que c'est sympa. Merci à Barthas pour l'organisation de cette belle journée que vous avez pu suivre sur vos ondes et que vous suivrez encore. Parce que juste après la fin de l'émission, vous allez écouter l'émission comme une oreille.